Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi.
Alors, nous allons partager la parole de Dieu ensemble, prendre le temps de partager la parole ensemble et on continue dans cette série Jésus-Christ, notre rocher, le fondement de notre vie, celui sur lequel nous voulons bâtir notre foi. Notre foi est bâtie sur Christ, sur l'œuvre de Christ. Et ce soir, nous allons voir un aspect du fondement qui doit être dans notre vie. Et nous allons parler de la grâce ce soir. Dieu est un Dieu de grâce. Et nous voulons vivre et expérimenter sa grâce dans nos vies. Et nous voulons... La grâce, en fait, ce n'est pas seulement pour obtenir le salut. La grâce est tout au long de notre vie, pour notre marche avec lui. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons continuellement besoin que sa grâce se manifeste envers nous. Et j'aimerais ce soir qu'on ouvre nos Bibles dans Luc chapitre 15 et on va lire ensemble les deux premiers versets dans un premier temps. La parole de Dieu nous dit, ici dans Luc 15, verset 1er, « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Voyez Jésus qui accueille des gens, qui s'approche des gens qui viennent vers lui pour l'entendre, et il y a des pharisiens qui sont là et qui... vont dire, mais il mange avec des gens de mauvaise vie. Marmaille, l'a dit la fée, c'est pas nous l'a inventé. Pharisiens inventent ça avant nous. Hein, imagine les pharisiens en train de dire, oh, on connaît mais ce bougla là, on ne connaît pas avec qui lui mange. La dernière fois, ma vie a lu, on ne connaît vraiment pas avec qui lui mange. Et un autre qui dit, ah oui, mais ça ne connaît pas, c'est qu'un jour, il est parti, il était côté d'un puits à Samarie, là-bas, il était en train de causer avec une femme, en plus, une Samaritaine. Alors, on ne me dit pas où. Et si vous connaîtrez la réputation de cette femme-là. Imaginez les pharisiens en créole. Hein. Bon, ceci dit, l'a dit la fée, c'est plus pour nous aujourd'hui. Mais on voit que les gens sont là, des hommes qui s'approchent de Jésus, qui ont soif d'entendre ce que Jésus a à dire. Bon, je ne vais pas continuer en créole, hein, parce qu'il y a des oreilles au milieu de nous ce soir. Mais Jésus, donc, est critiqué parce qu'il fréquente des pécheurs. Et pour répondre à ces critiques, dans Luc 15, il va donner trois paraboles. Et au travers de ces paraboles, il va illustrer la raison pour laquelle il est venu. Et cette raison, il l'a donnée quelques chapitres plus loin, dans Luc chapitre 19, verset 10. Jésus va dire, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, il fallait qu'il aille là où il y avait des perdus, là où il y avait des gens de mauvaise vie, là où il y avait des gens qui avaient besoin d'expérimenter l'amour et la grâce de Dieu. Et dans chacune de ces trois paraboles, Jésus va mettre l'accent sur la valeur de ce qui est perdu. Dans la première parabole, qui est la parabole de la brebis perdue, il y a une brebis qui est perdue sur 100. Ça représente 1%. Ensuite, il va parler de la parabole de la drachme, c'est une pièce d'argent, et il parle de cette femme qui va chercher la pièce dans sa maison, et elle va retrouver cette pièce qui était perdue sur 10 pièces, qui représente 10%. Et dans la troisième parabole sur laquelle on va se pencher ce soir, eh bien, il parle de ce fils qui est parti. Il avait deux fils et l'un des fils est parti, 50%. Et dans la première parabole, il parle d'un animal. Dans la deuxième parabole, il parle de l'argent. Mais dans la troisième parabole, il parle de l'humain. Et le message de Jésus au travers de ce qu'il dit ici, au travers de ces paraboles, il est en train de dire que chaque personne, chaque âme est importante aux yeux de Dieu. Même ton âme et ta vie est importante aux yeux de Dieu. Et tu as de la valeur à ses yeux. Et il te cherche. Et nous lisons donc au chapitre 15, le verset 11, donc l'histoire que l'on appelle communément l'histoire du fils prodigue, où il nous est dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Ce fils fait une demande. Il demande, avant la mort de son père, il demande l'héritage. C'était une demande qui était légale, mais c'est quand même une demande qui est choquante. C'est comme s'il était en train de dire, « Père, je voudrais que tu sois mort. Je voudrais que tu n'interviennes plus dans ma vie. J'en ai assez de toi. Je veux me libérer de ton emprise. Je veux vivre ma vie. Je veux faire ce que je veux. » Et ça, ça représente l'état de l'homme qui vit dans ce monde et qui veut vivre sans Dieu. C'est l'attitude de ceux qui veulent dire, « Eh bien, Dieu, je voudrais que tu sois mort. Je voudrais que tu n'existes pas. » Et ils ne le considèrent pas. C'est aussi, cette demande, c'est aussi une attitude égoïste. Cet homme va dire, ce jeune homme va dire, « donne-moi ma part qui me revient. Donne-moi le moi. » Combien souvent le moi est présent dans notre vie. Et sa vie était tournée vers lui-même, centrée vers lui-même. Il ne se souciait de personne d'autre que de lui-même et que de ce que le Père pouvait lui donner. Mais il ne voulait pas du Père. Et c'est aussi l'image de ceux qui sont perdus, de la personne qui ne pense pas à Dieu, qui voudrait que Dieu soit mort, mais qui, dont l'attitude vis-à-vis de Dieu est « donne-moi ». Donne-moi l'air dont j'ai besoin pour respirer. Donne-moi l'eau dont j'ai besoin pour vivre. Donne-moi la nourriture dont j'ai besoin pour vivre. Donne-moi ce qui est nécessaire pour mon quotidien, mais je ne veux pas de toi, Dieu. Je ne veux pas de toi dans ma vie. Et chaque jour, les hommes vivent sur la terre et ils consomment les ressources que Dieu met à notre disposition, que Dieu a créées pour nous, mais ils ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Ils ne veulent pas, ils veulent ce que Dieu peut donner, mais ils ne veulent pas de Dieu. Et ce fils, donc, la parole de Dieu nous dit au verset 13, « Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. » Donc voilà la direction qu'il a prise. Il obtient ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Et il va vivre sa vie. Il veut découvrir la vie, il veut savoir c'est quoi la vie en dehors de la maison de son père. Mais il va se rendre compte que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il prend ce qu'il a reçu de son père et il va commencer à gaspiller. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a vécu dans la débauche. C'est ce qui fait référence à une vie qui est entièrement consacrée au péché et à la méchanceté. Donc il a adopté un style de vie et il a laissé derrière lui toutes les contraintes morales, tout ce qu'il avait à la maison, tout ce qui mettait un cadre dans sa vie, il l'a abandonné pour vivre de manière à satisfaire ses intérêts, ses caprices, ses désirs, sa chair. Mais il va rapidement se rendre compte que la jouissance du péché, c'est juste pour un temps. Le plaisir qu'apporte le péché va se changer tôt ou tard en souffrance. Et il va vivre sa vie comme il le désire et vivre une vie dans l'ivresse, vivre une vie où on se livre à toutes sortes de plaisirs, à la sexualité ou à toutes sortes de choses qui, sur le moment, peut faire du bien, peut donner du plaisir, peut donner de la joie. Mais au final, ça n'amène que de la désolation et du vide sur cette terre. Et ça nous amène, après le passage sur cette terre, à l'enfer, à être séparé éternellement de Dieu. Et finalement, eh bien, ce jeune homme qui avait de l'argent s'est retrouvé à un moment donné sans rien. Ses richesses ont été épuisées. Il avait perdu tout l'argent et tous les amis qu'il avait aidés à partager, à dépenser son argent. Et ce pays lointain est devenu pour lui un pays de désolation, un pays de pleurs. Il a découvert que le péché entraîne une séparation. Il se retrouve fauché à des kilomètres de celui qui n'avait fait que de l'aimer. Et il va se retrouver dans le besoin. Et sa vie a basculé à ce moment-là. Lorsque la musique s'est arrêtée, lorsque ses amis sont partis, lorsque l'argent s'est envolé, eh bien ce jeune homme, il a découvert qu'il avait des besoins que ni l'argent, ni les amis, ni la fête, ni les plaisirs, ni la débauche ne pouvaient satisfaire. Il a découvert que le péché entraînait la honte. Il s'est retrouvé à nourrir des cochons. Et pour un juif, arriver à cet état, c'était tomber plus bas que bas. Et il a découvert que le péché amenait la souffrance. Il était là, sans maison, sans aide, sans espoir. Personne ne se souciait de lui. Il avait faim, il aurait aimé manger ce que les cochons mangeaient, mais ne pouvait pas. Et il souffre à cause des choix qu'il a faits. Il est plongé dans la tristesse, il est plongé dans la solitude. Personne ne se soucie de lui, personne ne prend de ses nouvelles. On ne sait pas s'il vit ou s'il est mort. Il a faim, il est brisé, il est seul. Vivre loin de Dieu ne procure pas le bonheur. Mais il y a un moment dans sa vie où quelque chose se passe. Et lorsque nous lisons au verset 17, il y a quelque chose qui s'est produit. La parole de Dieu nous dit « étant rentré en lui-même ». Étant rentré en lui-même. Tout le temps que ce garçon avait passé dans le pays lointain, au départ, c'était une période de folie, d'euphorie, de bonheur. Mais ses idées n'étaient pas claires. Maintenant, là, il se retrouve dans le brouillard. Il ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Il se rappelle combien il était bien dans la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs dans la maison de son père avaient une meilleure condition que celle dans laquelle il était à ce moment-là. Étant rentré à lui-même. Reconnaître notre situation est toujours le premier pas vers la restauration. C'est par là que commence le véritable changement. Et il rentre en lui-même et il va se dire, il va prendre des résolutions, il va dire « je me lèverai et j'irai vers mon père ». Il décide de rentrer chez lui. Il est fatigué de cette vie dans le pays lointain. Il aspire à retrouver la communion avec le père. Il veut aller là où il se sentait aimé, là où il était nourri, là où l'on prenait soin de lui. Il veut rentrer à la maison. Et alors qu'il pense à ça, il se rend compte de ce qu'il a fait, il se rend compte que sa manière de vivre n'était pas celle que son père aurait aimé qu'il vive. Il se rend compte de son indignité et il est prêt à rentrer chez lui, même si son père ne le reconnaît plus en tant que fils. Il est parti en disant « donne-moi » et il veut rentrer maintenant en disant « traite-moi ». Lisons le verset 19. Au verset 19, il dit « je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Le langage a changé. Ce n'est plus « donne-moi », c'est « traite-moi » comme l'un de tes mercenaires. Le mot « mercenaire » signifie « employé ». C'est quelqu'un qui travaille à la solde d'une autre personne. Et ce mot vient d'un mot qui signifie « récompense ». Donc c'est utilisé dans deux sens différents. C'est utilisé dans un sens positif pour parler de la récompense par rapport à une bonne action, par rapport à un travail dur qui a été accompli ou par rapport à des efforts. Mais ça signifie aussi, dans un sens négatif, recevoir sa récompense pour quelque chose de mal que l'on a fait, une punition à cause d'une mauvaise action, un châtiment. Et il est prêt à obtenir ce qu'il mérite. Son attitude nous montre que sa repentance fait qu'il veut rentrer à la maison, quel que soit le type de récompense qu'il va recevoir. Avant, il ne voulait plus être sous l'autorité de son père, mais là, il commence à reconnaître ses torts. Il veut se repentir de ses péchés, retourner auprès de son père. Et c'est là que tout pécheur doit arriver avant d'être sauvé. Dans ce moment où on prend conscience de notre état. C'est là que le Saint-Esprit entre en jeu et que le Saint-Esprit amène la conviction. C'est le Saint-Esprit qui peut nous montrer là où nous sommes. C'est lui qui enlève les œillères. C'est lui qui nous permet de voir notre véritable état. C'est lui qui nous montre Jésus, celui qui peut faire la différence dans notre vie. Aucun homme ne peut être sauvé sans le travail du Saint-Esprit dans sa vie. Il est celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et ce jeune homme a mis en application sa résolution. Il se lève et il va vers son père. Il ne sait pas ce qui va se passer à son arrivée. Il ne sait pas comment il va être accueilli à la maison. Il sera peut-être rejeté. Peut-être qu'il sera humilié. Peut-être même qu'il sera mis à mort, qui sait. Mais il retourne dans la maison de son père. La conviction que le Saint-Esprit produit dans notre vie va toujours nous ramener plus proches du Père. Lorsque le Saint-Esprit nous convainc d'un péché, ce sera toujours pour que l'on soit plus proche de notre Père. Et là, lorsqu'il arrive à la maison, lui qui pense faire tout un discours pour exprimer sa repentance, il va être accueilli dans la maison du Père. Il était attendu. Le Père ne vivait que pour ça, ne vivait que pour son retour. Et il a trouvé dans cette maison un Père qui est rempli d'amour, un Père rempli de compassion, un Père qui n'a pas cherché à entendre ce qu'il avait à dire. Il l'interrompt dans son discours et il va simplement vivre la relation avec lui, l'inviter à la maison, l'accueillir à la maison et faire la fête avec lui. Il se trouvait indigne, pourtant le Père court vers lui. Dans la parole de Dieu, dans Deutéronome, la parole de Dieu nous montre qu'un fils indigne, un fils qui a vécu dans l'ivrognerie, dans le péché, méritait d'être lapidé. Et nous voyons ici le Père qui court vers son fils. Et ça parle de la promptitude que Dieu a de venir vers nous pour nous écarter du danger. On risque la mort, on risque d'être lapidé, on risque d'être séparé de Dieu éternellement, mais il court vers nous lorsqu'il trouve un cœur qui se repent. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Le Père l'embrasse, c'est le signe ultime de l'acceptation. Il reçoit son fils, il l'embrasse. Et lorsque nous rentrons à la maison, le Père nous embrasse, il nous accueille, il nous réconcilie avec lui. La grâce a permis la célébration de la vie qui était retrouvée au lieu d'un enterrement. La grâce du Père s'était manifestée à l'égard de son fils. Il a trouvé la restauration. Ce garçon, quand il est rentré à la maison, tout ce qu'il avait abandonné a été restauré parce que le Père a décidé de lui faire grâce. Quand il rentre à la maison, verset 22, il est dit: mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite, notez ce que la parole de Dieu dit, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. La robe qu'il reçoit, lui qui était habillé avec ses haillons, ses vêtements de SDF, qui représentaient ses péchés, il n'avait pas l'air d'être l'enfant de ce père avec ses habits. Et le père ordonne qu'on lui apporte la plus belle de ses robes et qu'on la mette sur son fils. Et cette robe vient cacher toutes ses taches, la saleté de la porcherie. Cette robe est un vêtement nouveau que le père lui donne qui fait qu'il va ressembler au père. Si l'un des serviteurs n'était pas là quand il est arrivé, en venant à la maison, en ne connaissant pas l'histoire, en voyant ce jeune homme de dos, eh bien, il aurait pu le prendre pour le père lui-même parce qu'il portait la robe du père. Et cette robe a servi à effacer tous les signes visibles de son passé de pécheur. Et lorsqu'un pécheur rentre à la maison, il reçoit également une robe de la part du père. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 61, verset 10, il nous est dit « Car il m'a revêtu du vêtement de salut. Il m'a couvert d'un manteau de délivrance. » Dieu a un manteau, Dieu a un vêtement pour celui et celle qui vient à lui et qui était séparé de lui. Peu importe les fautes que nous avons pu commettre. Et le Père lui demande, on demande à ses serviteurs de lui donner, de mettre à son doigt un anneau qui représente son statut de fils et aussi son autorité. Celui qui portait l'anneau pouvait parler au nom du Père. Celui qui portait l'anneau avait accès à ce qui appartenait au Père. Celui qui portait l'anneau avait une position de grand privilège dans la maison. Et lorsque le pécheur perdu se repent, il revient à Dieu, il s'approche de Dieu. Dieu le reçoit dans sa maison et lui donne des privilèges qu'il n'avait pas, qu'il avait perdus. Le Père met l'anneau au doigt de son Fils. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Et nous le sommes. Et le Père va lui aussi lui donner des chaussures. Seuls les esclaves avaient les pieds nus. Et ce garçon, il rentre chez lui en souhaitant être traité comme un simple serviteur, comme un esclave. Mais le Père était déterminé à le reconnaître dans sa position de fils. Vous n'êtes pas moins que rien quand vous êtes touché par la grâce de Dieu et que vous devenez des fils et des filles de Dieu. Lorsque tu as été sauvé par la grâce, lorsque tu es devenu un enfant de Dieu, il ne te voit plus comme un esclave ou un pécheur. Tu es son enfant chéri. Il t'aime autant qu'il a aimé, qu'il aime son Fils unique qu'il a envoyé pour nous. Et ce Fils va retrouver la joie dans sa maison. Le veau gras est gardé pour des occasions spéciales et le Père va demander à ce qu'on tue un veau gras. C'était une façon pour ce Père de partager sa joie avec ceux qui l'entouraient. Au lieu d'une vie gâchée, le Père voulait célébrer une vie rachetée, une vie restaurée. Tout ce qui marquait la porcherie, tout ce qui lui avait manqué alors qu'il était dans la porcherie, eh bien, il le retrouvait à la maison. Il avait de nouveau de quoi se nourrir. Mais plus que cela, il avait de quoi faire la fête avec son Père. Il est revenu. Et ça parle des réjouissances qu'il y a dans le cœur de Dieu lorsqu'un pécheur revient à lui, lorsque quelqu'un est racheté, lorsqu'une âme est sauvée. Et puis, alors que la fête a commencé à la maison, il y a le frère qui arrive. Et c'est dans ce climat de réjouissance que le frère aîné entre en scène. Lui, il est bien loin des réjouissances. Et le bruit, il entend un bruit qui l'intrigue et il est même troublé parce que c'est un bruit de fête et il n'a pas l'habitude de faire la fête. Il n'a jamais fait la fête à la maison. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, il y a un serviteur qui va lui expliquer que son frère revient à la maison. Et il n'était pas prêt à entendre cette nouvelle. Son sang n'a fait qu'un tour. Et nous lisons au verset 28, la parole de Dieu nous dit « Il se mit en colère et ne voulut pas entrer ». Ce père avait deux fils. Et en racontant cette parabole, Jésus enseigne qu'au final, il n'y avait pas qu'un seul fils qui était perdu. Il en avait deux qui étaient perdus. Il y avait le plus jeune qui a pris les biens, qui est parti et qui s'est perdu dans un pays lointain. Mais il y avait celui qui était perdu dans la maison du père. Le fils cadet était égaré parce qu'il vivait pour le plaisir. Le fils aîné était égaré parce qu'il vivait dans la contrainte. Il y a deux façons de se perdre. La première consiste à enfreindre les règles, à faire ce que l'on veut, à vivre comme bon nous semble. C'est de cette façon que le fils cadet vivait. Il était perdu. Mais l'autre façon, c'est de respecter toutes les règles, d'être bon partout, sur tous les points, au point d'être légaliste. Et c'est ainsi que le frère aîné, il a vécu. Et il était perdu lui aussi, même s'il était dans la maison. Être une bonne personne qui essaie de tout faire bien ne signifie pas être sauvé. Même si on essaie de faire bien pour gagner la faveur de Dieu, on est perdu. Respecter les règles ne fait pas que Dieu va entendre nos prières et qu'il va nous bénir. Si c'est comme ça qu'on pense, on a mal compris. C'est la foi que nous plaçons en lui et c'est par la relation que nous avons avec lui que Dieu exauce nos prières. mais pas parce que nous sommes de bonnes personnes. Le fils est né, il revenait des champs. Et lorsque son frère, il apprend que son frère arrive, lui, il était occupé à travailler. Son frère était parti au loin, avait dilapidé ses biens, mais lui, il était resté dans la maison, il travaillait. Le frère aîné est l'image de celui qui a la parole de Dieu, ou qui, du moins extérieurement, marche dans la loi de Dieu. Il sert Dieu, il est impliqué. Il paraît bien aux yeux des autres. Mais il a un vrai problème de cœur. Un problème qui est caché aux yeux des autres, mais un problème que Dieu voit. Ce fils était un religieux et il était aussi perdu que son frère qui était loin de la maison. C'est l'image de celui qui a une bonne morale, qui vient à l'église, qui ne jure pas, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne vole pas, qui ne triche pas. On peut être baptisé, venir à l'église, mais ce n'est pas ça qui fait de nous quelqu'un de bon. On peut paraître même mieux que tout le monde autour de nous, mais ce n'est pas ça qui fait de nous quelqu'un de bon. On peut être bon, moral et actif dans l'église et pourtant être perdu. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 7. Jésus va dire, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La religion n'est pas synonyme de salut. L'appartenance à une église n'est pas synonyme de conversion. Être proche des choses de Dieu ne signifie pas être sauvé par la grâce de Dieu. Le salut ne s'obtient que par la grâce, par le moyen de la foi, nous dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas le fruit de nos efforts, ce n'est pas ce que je peux faire pour plaire à Dieu. Ce n'est pas parce que je cherche à être une bonne personne, c'est parce que je cherche à être connecté, à être en relation, en communion avec celui qui est bon, avec celui qui est parfait, avec celui qui a donné sa vie pour moi et qui, par son esprit, a la capacité de changer mon cœur et ma vie. Et ce fils aîné qui était là dans la maison, il était rempli de ressentiment à l'égard de son frère et même aussi lorsque cette fête se révèle, eh bien à l'égard même de son père. Il n'aimait pas son frère. Ses actions nous montrent qu'il n'aimait, il se souciait pas de son frère. Il ne se souciait pas, il n'était pas réjoui du fait que son frère qui était perdu revienne à la maison. Il avait déjà fait une croix sur son frère, lui. Il était égoïste, hautain et rempli de haine. Sa haine, sa colère s'est manifestée à ce moment-là quand le frère rentre à la maison et surtout quand le père va faire la fête pour son frère qui est rentré à la maison. Quand il apprend pourquoi il y a une fête, il se met en colère, il refuse d'entrer. Son père sort et le supplie gentiment d'entrer. Et sa réponse nous révèle ce qu'il avait dans son cœur. Au verset 29, il nous rappelle que son père, il l'avait servi fidèlement, mais il n'avait jamais reçu de fête pour ça. Lisons verset 29, il va dire à son père, « Il y a tant d'années que je te sers, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Le père a tué le veau gras, pas un chevreau, mais le veau gras pour son frère. Et c'était un acte extravagant à l'époque, dans cette culture. Le simple fait de manger de la viande à un repas était considéré comme un délice. Et le fils aîné, il se rend compte que son père est fou de joie pour son frère qui est rentré. Mais il ne partage pas cette joie. Il refuse d'entrer. Il manifeste là aussi un manque d'amour et un manque de respect vis-à-vis de son père. C'est une façon de dire, je ne ferai pas partie de cette famille. Je ne respecterai pas ton autorité. Le fils aîné considérait qu'il était au service du père comme un esclave. Le mot qui est utilisé ici au verset 29, c'est le mot doulos en grec. Et ça fait référence à l'esclave. Il va dire, toutes ces années, j'ai été ton esclave. Il n'a pas servi son père par amour pour le père. Il a fait les choses en se sentant contraint de le faire. Qu'en est-il de nous ? Avec quel état de cœur servons-nous Dieu ? Comment est-ce que nous considérons notre service pour Dieu, ce que nous faisons pour lui ? Est-ce que c'est une contrainte ? Est-ce qu'on fait parce qu'il faut faire ? Ou est-ce qu'on fait parce qu'on aime le Père et c'est notre amour qui nous pousse ? Comment est-ce qu'on réagit lorsque ceux qui étaient perdus viennent au Père ? Lorsque nous les voyons grandir spirituellement, prendre de la place dans la maison, une place peut-être que l'on aurait voulu avoir, mais qu'on n'en a jamais osé avouer. Comment est-ce qu'on se sent lorsque des personnes qui avaient une vie dissolue viennent à Dieu, commencent à s'impliquer, à avoir des résultats dans ce qu'ils font et à être utilisées par Dieu ? Est-ce que nous servons Dieu parce que nous l'aimons ou parce que nous pouvons retirer de lui, recevoir de sa part ? Le fond du problème se voit au verset 30. La parole de Dieu nous dit dans Luc 15, 30, « Et quand ton fils est arrivé, » donc c'est le fils aîné qui parle à son père et il va dire « Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Il est jaloux. Il est peut-être chez lui dans son corps, mais il est loin dans son cœur. Il était aussi loin du père que le fils cadet qui était parti de la maison. Il remettait en question l'usage que le père faisait de ses richesses. Au verset 12, nous avons vu que le père a partagé ses richesses entre ses deux fils. Lui aussi, il a reçu sa part. Ce qui était là, dans la maison, lui appartenait également. Et d'ailleurs, au verset 31, le père va lui dire « Tout ce qui est à moi est à toi. Tu en disposes comme tu veux. Tu es mon fils. » Et à la mort du père, tout sera entre ses mains. Mais il était furieux parce que son père a osé utiliser la richesse qui devait lui revenir à lui pour organiser une fête pour son frère qui était si méprisable et qui avait dilapidé son argent avec des prostituées. Et remarquez comment ce jeune homme a géré sa colère. Il était dans l'attaque, il a critiqué, il a blâmé, il reprochait à son père ce qu'il faisait. Mais là encore, nous voyons la grâce du père qui se manifeste. Il sort pour parler à son fils, tout comme il était sorti pour parler à son fils cadet qui était rentré à la maison, il sort pour rencontrer son fils aîné. Qui est dehors, qui ne veut pas entrer. Le père est sorti et il a prié ce garçon d'entrer dans la maison. Le mot « prier » ici peut être traduit aussi par « supplier ». Et le mot signifie « venir à côté d'un autre », offrir du réconfort, supplier, consoler, réconforter, encourager. Donc le père n'est pas sorti pour le reprendre avec sévérité, malgré son état de cœur, malgré sa colère, mais c'est avec beaucoup d'amour dans le but de l'exhorter, dans le but de le faire entrer aussi pour partager la joie. Le mot qui est utilisé ici, c'est le même mot que consolateur, ce même mot que Jésus va utiliser pour parler du Saint-Esprit. Ce Père, il l'aimait, il est sorti pour encourager son Fils à venir célébrer la fête. À ne pas rester à l'extérieur. Remarquez que le fils ne l'appelle pas père, mais le père l'appelle fils. Et ce père va aller vers son fils, le fils aîné qui était là dans la maison avec lui, dans un bon état d'esprit. Il ne veut pas le rejeter. Et il y a des moments où Dieu va nous parler, il va venir vers nous. Et le Saint-Esprit va venir confronter le péché dans notre vie, pas avec dureté, pas pour nous éloigner de lui, mais le but de Dieu, c'est de nous amener à la repentance. Lorsqu'il nous amène à voir notre état de cœur, notre condition de cœur, s'il y a de la colère, s'il y a de la haine, s'il y a de l'amertume, le Père, son désir, c'est de venir à nous avec cette douceur. La grâce de Dieu se manifeste dans la douceur. Et pour le Père, c'était une nécessité de faire la fête. Au verset 32, il est dit « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Le Père dit « Il fallait ». Les réjouissances étaient nécessaires pour le Père. Comme nous l'avons vu dans les trois paraboles dont il est question ici dans Luc 15, c'était à chaque fois pour retrouver quelque chose qui était perdu. Et chaque parabole met l'accent sur la valeur de ce qui est perdu. Et pour le Père, le retour du Fils qui est perdu, le Fils qui était considéré comme mort et qui est revenu à la vie, c'était un motif de célébration. Le Père est tellement heureux de retrouver son fils cadet. Celui qu'il considérait comme mort, celui pour lui dont il n'avait plus de nouvelles, il a de quoi se réjouir. Il fallait faire la fête à cause de cela. Le Père veut que ce garçon et ces deux garçons, ces deux fils, apprennent cette vérité. Qu'ils pouvaient revenir à lui. Qu'ils pouvaient se rapprocher de lui. Ces deux fils avaient besoin de savoir qu'ils étaient la priorité de ce Père. Et au lieu de nous énerver lorsque Dieu ne fait pas les choses à notre façon, eh bien nous devrions apprendre à remercier Dieu pour ce qu'il fait. Au lieu de bouder, comme ce garçon a pu le faire, et de rester dehors, Dieu nous invite à entrer. Et le chapitre 15 nous montre que tout le monde était heureux, sauf le frère aîné et sauf les pharisiens et les scribes. Le berger qui a retrouvé sa brebis était heureux. Les amis du berger étaient heureux. La femme qui a retrouvé sa pièce qui était perdue était heureuse. Et ses amis et ses voisins étaient heureux. Et la parole de Dieu nous dit, même les anges dans le ciel se réjouissent. Et le père qui a retrouvé son fils est heureux. Et tout le monde dans la maison, les serviteurs font la fête avec eux. Le seul qui est malheureux, c'est le frère aîné. Les seuls qui sont malheureux, ce sont les scribes et les pharisiens qui disent « Mais pourquoi lui, il mange avec des gens de mauvaise vie ?» Ils sont malheureux parce qu'ils choisissent de l'être. Les pharisiens et les scribes murmurent contre Jésus parce que Jésus mangeait avec des personnes de mauvaise réputation. Le fils aîné, il ne veut pas se réjouir, il est malheureux parce que son père est en train de se réjouir de quelqu'un qui a fait le mal. Et il reste là, à l'extérieur, à bouder, parce que lui n'a pas obtenu ce qu'il aurait désiré. Et c'est l'exemple même de celui qui refuse la grâce de Dieu. Il n'y a pas de joie à refuser la grâce de Dieu. Nous restons à côté, et nous restons dans la tristesse et dans la peine lorsque nous n'acceptons pas la grâce que Dieu nous offre. Et dans sa grâce, Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, la parole de Dieu nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. » La grâce n'est pas automatique, elle a besoin d'être trouvée. Et la façon de trouver où est-ce qu'on peut trouver la grâce, c'est en venant au trône de Dieu, en s'approchant de lui. Et la parole de Dieu nous encourage à nous approcher de lui avec assurance. Tu peux être quelqu'un qui a vécu une vie dissolue, cela ne t'empêche pas de t'approcher du trône de la grâce. Et tu peux, durant cette semaine, avoir fait des choses que tu sais qui ont blessé le Saint-Esprit, attristé le Saint-Esprit, et tu as cette conviction. Mais Dieu t'invite aussi à venir au trône de la grâce. Dieu a prévu une vie extraordinaire pour chacun de ses enfants. Une vie qui est remplie de sa nature à lui. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de challenge, qu'il n'y aura pas de l'opposition, qu'il n'y aura pas de difficulté. Mais Dieu promet la victoire. Dieu nous promet de vivre la victoire. Savez-vous ce que signifie ? On parle souvent de la parabole du fils prodigue. Mais est-ce que vous savez ce que signifie le mot prodigue ? Ça signifie être dépensier à l'extrême, quelqu'un qui dilapide ses biens. C'est ce que le fils cadet a fait. Et ça signifie aussi qu'il distribue et qu'il donne sans compter et abondamment. Et c'est de cette manière que la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie. Le Père est un Père prodigue dans le sens où il distribue et il donne sans compter. Il donne sans compter. Et il veut que tu aies accès à sa grâce ce soir.